Par une seule personne, nous sommes devenus pécheurs, et par une seule personne, Jésus-Christ, le péché de ce monde a été enlevé. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Plusieurs doctrines contradictoires se sont formées théologiquement. Aujourd'hui, nous lisons les paroles de Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Le titre de cette parole est « Par une seule personne, nous sommes devenus pécheurs, et par une seule personne, Jésus-Christ, nous recevons le salut de tous les péchés ». Avant d'entrer dans le contenu principal du texte d'aujourd'hui, nous devons d'abord signaler plusieurs doctrines erronées établies dans la religion appelée le christianisme moderne. Les doctrines contradictoires qui causent actuellement du tort à la foi au sein du christianisme sont les suivantes. La première est la justification par la foi, c'est-à-dire la doctrine qui affirme que l'on obtient la justification par la foi. Parmi les théologies acceptées par la communauté chrétienne mondiale, il existe plusieurs doctrines contradictoires, et la plus représentative est précisément cette forme de la théorie de la justification. Cette logique affirme que, même si le péché demeure encore dans le cœur, pour la seule raison de croire en Jésus, cette personne est appelée juste. Une autre doctrine bien connue est la doctrine de la sanctification. C'est l'affirmation que, immédiatement après avoir cru en Jésus, le péché demeure, mais qu'à travers la vie religieuse le péché disparaît, et qu'à mesure que le nombre de péchés diminue, on se transforme progressivement en un état de sainteté. Autrement dit, c'est la théorie selon laquelle une personne enlève les péchés commis après avoir cru en Jésus par des prières de repentance chaque jour, devient progressivement sainte, puis devient complètement juste avant de mourir. Cependant, le texte que nous allons examiner aujourd'hui révélera clairement à quel point ces doctrines de la justification et de la sanctification sont contradictoires et erronées. Vérifions ensemble quelle est la véritable vérité que le texte d'aujourd'hui nous transmet. Le caractère fictif de la théorie de la sanctification. Le péché disparaît-il simplement parce que nous croyons en Jésus et que nous faisons beaucoup de prières de repentance? Pouvons-nous atteindre le stade de la sanctification? La théorie de la sanctification est l'enseignement selon lequel une personne croyante devient progressivement sainte. Cependant, cela est-il vraiment possible? Même si quelqu'un croit à cette doctrine en pensant qu'il peut réduire le péché et devenir finalement parfaitement saint, bien qu'il puisse réduire le nombre de péchés commis dans sa vie, il ne peut pas éliminer parfaitement le péché lui-même. Cela est dû au fait que le péché ne peut jamais être enlevé uniquement par des prières de repentance faites chaque jour et par des résolutions répétées. Les personnes qui croient à la théorie de la sanctification pensent que si elles font des prières de repentance et mènent une vie pieuse, elles changeront progressivement et deviendront finalement complètement saintes, mais en réalité, c'est une chose impossible. En réalité, la théorie de la sanctification n'est qu'un simple souhait humain et n'est rien d'autre qu'une théorie qui n'a aucun rapport avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la sainteté. Et le seul moyen d'accomplir cette volonté de Dieu est de devenir saint immédiatement en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas un processus consistant à changer petit à petit par des prières de repentance jusqu'à se tenir devant Dieu. que ce serait merveilleux si les gens pouvaient en se tenir devant Dieu dans un état où leur corps et leur cœur seraient devenus parfaitement saints en croyant à la théorie de la sanctification. Cependant, cela n'est qu'un espoir humain vain et ce n'est pas la vérité. Au contraire, la vérité est que personne ne peut être sanctifié par la théorie de la sanctification créée par le christianisme. Parce que le péché joue le rôle de maître à l'intérieur du cœur d'une personne, peu importe les efforts que l'on fait pour devenir saint. Cela ne sert à rien. Celui qui rend une personne sainte, c'est Dieu. Dieu a montré sa justice aux hommes, et lorsqu'ils croient à cette justice, il les rend saints immédiatement. Mais comment sont les gens aujourd'hui? Ils ont mis de côté la justice de Dieu et croient en Dieu seulement de manière religieuse. Dans la condition des êtres humains faibles, la théorie de la sanctification peut sembler plausible, mais ce n'est qu'un résultat issu de pensées humaines. Lorsqu'une personne en vient à connaître la vérité appelée l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ, elle réalise que la doctrine de la sanctification ne correspond pas du tout à la vérité. Finalement, les personnes qui luttaient pour être sanctifiées au sein du christianisme finissent par être déçues de leur propre état qui ne change pas. Par conséquent, les chrétiens doivent échapper aux faux enseignements tels que la doctrine de la sanctification et rencontrer la justice de Dieu pour recevoir le salut de tous les péchés. Cela est dû au fait que ces doctrines erronées bloquent le chemin pour aller vers Dieu. La pensée selon laquelle une personne reçoit la rémission des péchés en faisant des prières de repentance ne consiste pas à croire en la justice du Seigneur. Il faut réaliser qu'aucun péché ne peut être enlevé par des prières de repentance. Néanmoins, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, les gens s'accrochent aux prières de repentance, à la théorie de la sanctification et à la théorie de la justification comme une personne qui se noie s'accroche à une paille. Cependant, la prière de repentance n'est finalement rien d'autre qu'une paille. Cette paille peut-elle vous sauver de l'eau? La pensée selon laquelle on peut se changer soi-même par des prières de repentance ou par la doctrine de la sanctification n'est rien d'autre qu'un concept. Maintenant, vous devez abandonner cette pensée. Est-il correct que, après avoir cru en Jésus comme sauveur, les péchés commis chaque jour soient remis par des prières de repentance? Le péché d'une personne disparaît-il simplement parce qu'elle fait une prière de repentance? Au début, cela peut sembler résolu émotionnellement. Mais peu importe combien vous priez, loin d'échapper au péché, vous ferez l'expérience d'être lié dans un joug de péché encore plus profond. De plus, en réalisant qu'on ne peut jamais échapper au péché inscrit dans la conscience, on finit par abandonner la foi ou par être frustré à cause du péché. Le péché ne disparaît pas et seule la tristesse et la douleur augmentent. Tout en étant piégés dans le péché, les gens jeûnent et crient pour apaiser leur propre conscience. Ils se répètent à eux-mêmes des paroles de consolation et d'assurance en disant « Puisque les péchés que j'ai commis sont peu nombreux, si je jeûne et prie, Dieu écoutera ». Cependant, à la lumière de la parole de vérité, il est clair que le péché ne disparaît pas simplement parce qu'une personne fait une prière de repentance. Il n'y a pas eu une seule personne sur cette terre qui ait atteint une sanctification complète par des prières de repentance et il n'y en aura pas non plus à l'avenir. Jésus a accompli la justice de Dieu et a donné la rémission des péchés aux hommes. Il a permis le christianisme afin que tous puissent connaître la vérité et recevoir la rémission des péchés pour parvenir à la justice. Mais le christianisme d'aujourd'hui est tombé dans une religion mondaine à cause de doctrines absurdes issues des pensées humaines. Même si quelqu'un accomplit tous les rites religieux issus des pensées humaines, ce ne sont que des actes qui n'ont absolument aucun rapport avec la justice de Dieu. Même si quelqu'un essaie d'être reconnu en faisant de son mieux devant Dieu, en priant pour la sanctification et en menant une vie sobre, ce n'est qu'un souhait humain, et Dieu ne le reçoit pas avec joie. Au contraire, il détourne son regard des hypocrites. Les doctrines fabriquées par les hommes rendent impossible non seulement d'atteindre la justice de Dieu, mais même de recevoir la rémission des péchés. Les pensées humaines engendrent toujours la mort. Si quelqu'un s'efforce de ne pas pécher, il semble qu'il ne péchera pas et que son cœur deviendra saint. Mais non seulement il ne peut s'empêcher de pécher, mais peu importe ses efforts, son cœur ne devient pas saint. Même si quelqu'un consacre toute sa vie à la sanctification, le péché dans le cœur ne disparaît absolument jamais. On peut décider de devenir saint, mais le péché réel ne disparaît pas. Le seul moyen d'éliminer le péché d'une personne est de croire au baptême que Jésus a reçu et au sang de la croix. Ce n'est qu'alors que la rémission des péchés est possible. Le péché demeure dans la conscience et le cœur de tous ceux qui ne croient qu'à pas à la justice de Dieu, et ce péché est enregistré en détail sur la tablette de la conscience. Ainsi, chaque fois que quelqu'un essaie de prier, le péché enregistré dans la conscience lui vient à l'esprit, lui faisant réaliser qu'il est un pécheur. le sentiment de condamnation demandant « Quand et quel péché as-tu commis ?» empêche d'aller avec assurance devant Dieu. Même si quelqu'un consacre énormément de temps à des prières de repentance en disant « Je suis un pécheur », au lieu de recevoir la rémission du péché, seul le fait qu'il est un pécheur devient plus évident. Finalement, on termine sa vie en répétant seulement des prières de repentance tout au long de son existence. C'est exact. Le péché ne disparaît pas parce qu'une personne fait une prière de repentance et l'on ne devient pas non plus saint en croyant à la théorie de la sanctification. Même si quelqu'un s'efforce de vivre correctement chaque jour et fait de nombreuses prières de repentance, le corps et le cœur ne changent pas en un état saint. La sanctification ne peut pas être atteinte et le péché ne disparaît pas non plus. Et seuls le corps et le cœur épuisés par le péché restent. Par conséquent, les prières de repentance et la théorie de la sanctification ne peuvent donner ni la rémission des péchés ni la paix à une personne et ne sont que des doctrines qui trompent les gens tout au long de leur vie. Ce que l'on appelle la soi-disant justification, c'est-à-dire la pensée selon laquelle une personne est appelée sans péché, simplement parce qu'elle croit en Jésus, n'est qu'une doctrine créée par les pensées humaines. Que vous croyez en Jésus ou non, si le péché réel demeure dans votre cœur, vous devez reconnaître strictement le fait que ce péché conduit finalement à la mort et au châtiment de l'enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit en Jésus qu'une personne ayant du péché devient une personne sans péché. S'il y a du péché dans le cœur, il est toujours simplement un pécheur. Et une personne qui ne croit pas a du péché, donc naturellement, elle est un pécheur. Même si nous espérons aller au ciel en croyant à la théorie de la sanctification ou à la théorie de la justification, nous ne pourrons jamais atteindre cet objectif de cette manière. Par conséquent, une personne doit croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est qu'en croyant en cet évangile que l'on peut recevoir la rémission de tous les péchés et naître de nouveau. Vous devez sortir du cadre des fausses doctrines appelées la théorie de la sanctification, la prière de repentance et la théorie de la justification. Ce n'est que lorsque vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez véritablement naître de nouveau et réaliser que tous les péchés ont complètement disparu. Nous devons clairement distinguer et séparer les doctrines humaines de la vérité. Et nous devons graver dans nos cœurs la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, à laquelle Romains rend clairement témoignage. Lorsque vous en venez à réaliser que cette parole est réellement la justice de Dieu, vous atteindrez enfin la justice par la foi. Comme le dit le proverbe, si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu gagneras 100 fois sur 100. Vous devez discerner avec précision le caractère mensonger et fictif de la théorie de la sanctification et de la théorie de la justification par la foi. Ce n'est qu'alors que vous découvrirez la vérité appelée l'évangile de l'eau et de l'esprit et que vous pourrez vaincre le mensonge et obtenir la véritable vérité. Le péché est entré dans ce monde par un seul homme. Lisons ensemble la parole de Romains, chapitre 5, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par qui le péché qui habite dans le cœur de tous les hommes est-il entré? De qui le péché de ce monde a-t-il commencé? Et sur combien de personnes est-il venu? » Le texte rapporte clairement que le péché est entré dans le monde par un seul homme et affirme qu'il a atteint toute l'humanité. Cela signifie que le chemin par lequel le péché est entré et le chemin par lequel le péché est résolu sont les mêmes. De même que toute l'humanité est devenue pécheresse par un seul homme, Adam, parce qu'une seule personne, Jésus-Christ, est venu sur cette terre et a accompli la justice de Dieu, les péchés de tous les hommes ont pu être effacés. Par conséquent, toi et moi pouvons devenir des justes sans péché en croyant au baptême que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé sur la croix. Quiconque croit à la justice de Dieu accomplie par une seule personne, Jésus-Christ, devient libre de tous les péchés. La Bible dit que le péché est venu sur l'humanité par un seul homme, Adam. C'est-à-dire que la raison fondamentale pour laquelle nous sommes devenus pécheurs est que nous sommes les descendants d'Adam. Ici, nous devons réfléchir à Adam. Selon Genèse, chapitre 2, verset 7, il est écrit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. À l'origine, l'homme a été créé comme un être qui ne mourait jamais. Dieu donna à Adam le jardin d'Éden et le fit vivre avec Ève. Au milieu du jardin se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, et Dieu lui ordonna de ne jamais manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, Adam ne crut pas à cette parole et pécha devant Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cause de la faute de cet homme, l'humanité fut chassée du jardin d'Éden et engendra une descendance sur cette terre, faisant ainsi prospérer l'humanité. Puisqu'Adam est l'ancêtre de l'humanité et que nous sommes ses descendants, le péché de l'ancêtre a été transmis à nous et nous sommes nés pécheurs dès notre naissance. Ainsi, le péché est venu sur toute l'humanité par une seule personne et est entré dans le monde. Le péché n'a pas été créé à l'origine par Dieu, mais il est entré dans le monde parce qu'Adam n'a pas cru à la parole de Dieu. Même maintenant, le péché agit par l'incrédulité qui ne croit pas à la parole de Dieu et conduit l'humanité à la mort. Par conséquent, nous devons réaliser que le péché est entré dans le monde par une seule personne et que, puisque nous sommes ses descendants, nous n'avons eu d'autre choix que d'hériter de tous les péchés et de naître ainsi. Nous ne sommes pas devenus pécheurs simplement parce que nous avons accompli des actes de péché. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés de la lignée d'un ancêtre qui possédait le péché. Les gens commettent et ont des péchés en partie parce qu'ils sont faibles, mais fondamentalement parce qu'ils sont nés en portant le péché dans leur cœur. Parce que nous sommes nés comme des semences de péché et que nos cœurs sont remplis de péché, l'acte de commettre le péché suit naturellement. En fin de compte, la raison fondamentale pour laquelle nous sommes devenus pécheurs devant Dieu est que, en tant que semences de péché, nous avons hérité de tous les péchés sans exception. Le fait que nous n'étions pas justes dès le commencement. C'est pourquoi la Bible appelle les êtres humains des semences de péché ou des semences de malfaiteurs. Les paroles qui suivent l'hymne Romains chapitre 3, verset 10, révèlent clairement qu'avant que Jésus-Christ ne vienne sur cette terre, il n'y avait pas une seule personne qui soit devenue juste par sa propre force. La Bible parle ainsi. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cela signifie qu'il n'y a personne qui soit devenu juste par lui-même sans croire à la justice de Dieu donnée par Jésus-Christ. De plus, il n'y a personne qui réalise véritablement qui est Dieu ou quel genre d'être il est lui-même, et il n'existe aucun cas où un être humain né comme descendant d'un pécheur cherche Dieu de lui-même. Même si quelqu'un semble chercher Dieu extérieurement, en réalité, il ne cherche pas Dieu, mais cherche seulement un être puissant qui satisfera ses propres désirs. Si une personne cherche réellement Dieu, elle est inévitablement amenée à trouver Jésus-Christ qui peut enlever complètement ses péchés fondamentaux. La Bible continue, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Sans exception, tous prétendent chercher Dieu. Mais finalement, tous sont devenus des êtres inutiles. Bien qu'ils soient devenus des êtres inutiles, ils ne cessent de convoiter des bénédictions mondaines. De plus, la Bible dit, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Qui ose faire le bien ? Personne. Tout pécheur n'est qu'un hypocrite. Même s'ils font semblant de faire le bien, il n'y a rien de bon au centre de leur cœur. Comme le dit le verset biblique, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ainsi, les êtres humains vivent uniquement pour satisfaire ce gosier jusqu'au jour de leur mort, non, jusqu'au jour même où ils vont en enfer. C'est une énorme illusion de croire que les êtres humains ont de grands rêves et des objectifs élevés. En réalité, ils sont simplement liés à remplir leur propre bouche et leur ventre, ainsi que leurs désirs charnels. Il est écrit, ils se servent de leur langue pour tromper. Même les paroles que les hommes prononcent en disant qu'elles sont la vérité sont en réalité toutes des mensonges. Parce que les êtres humains parlent toujours de manière trompeuse, il n'y a absolument aucune partie en eux qui soit digne de confiance. L'expression « ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic » signifie qu'il y a un immense entrepôt de poison dans la bouche d'une personne. Quiconque est frappé par le poison qui jaillit de cet entrepôt meurt. Peu importe qu'il s'agisse d'un collègue, d'un membre de la famille ou d'un voisin proche, si les gens jugent qu'ils ne leur sont pas utiles, ils utilisent à tout moment le poison de leur bouche pour blesser l'autre personne. C'est la véritable apparence des êtres humains avant de rencontrer Jésus-Christ. Leurs lèvres sont pleines du venin des aspics, leur bouche est remplie de malédictions et d'amertume, et leurs pieds sont rapides pour répandre le sang. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a que destruction et misère sur leur chemin. En bref, les êtres humains sont des êtres nés pour vivre en commettant d'innombrables péchés dans ce monde. Toutes sortes de péchés sont entassés en eux comme un coffret de cadeaux assortis. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle les êtres humains sont venus dans le monde pour commettre le péché ? Comme le dit la parole, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, les êtres humains se déplacent rapidement pour trouver des occasions de commettre le péché même, sans être instruits. Mais il est dans la nature humaine d'être aveugle et lent lorsqu'il s'agit de choses justes. Puisqu'il est dit « la destruction et le malheur sont sur leur route, selon la parole de la Bible, un être humain, avant de rencontrer Jésus-Christ, n'est pas différent d'un être né pour faire l'expérience de la destruction et du malheur. Vivant dans la souffrance en essayant de remplir leurs désirs comme un sépulcre ouvert, ils finissent par se diriger vers l'enfer, où les malédictions et la destruction les attendent à la fin. Si l'on ne rencontre pas Jésus-Christ, la vie n'est qu'une continuité de souffrance et de destruction du début à la fin. Il est dit, ils ne connaissent que pas le chemin de la paix. Un pécheur ne peut jamais connaître la véritable paix. Un pécheur n'a aucun moyen de connaître ce grand mystère. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le mystère de croire en la justice de Dieu pour recevoir la rémission des péchés. Devenir juste pour obtenir la vie éternelle au ciel et devenir enfant de Dieu pour jouir de toutes les bénédictions qu'il donne. Si vous croyez à la justice de Dieu contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous recevez dans votre cœur la rémission des péchés et vous devenez une personne juste sans aucun péché. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous jouirez de la véritable paix non seulement dans les bénédictions célestes, mais aussi en vivant sur cette terre. Cependant, un pécheur quitte ce monde après avoir vécu une vie d'efforts vains sans connaître ce chemin. Sans parler de ceux qui ne cherchent pas Dieu, même ceux qui prétendent chercher Dieu mais qui sont prisonniers de leurs propres pensées et doctrines et ne sont pas nés de nouveau continueront la destruction et les malédictions de cette terre dans l'au-delà. Enfin, la Bible dit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Un pécheur ne craint pas réellement Dieu. Même les faux croyants qui disent de leur bouche qu'ils croient en Dieu mais qui n'ont pas reçu la rémission des péchés vivent en réalité des vies où ils ne craignent pas Dieu. » Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans l'humanité. Cela signifie que nous ne sommes pas devenus pécheurs simplement parce que nous avons commis des péchés en vivant, mais qu'à cause d'un seul homme, Adam, qui est notre ancêtre et l'origine de l'humanité, toi et moi, ainsi que toutes les générations à venir, sommes devenus pécheurs. Le fait que le péché est entré dans le monde signifie que, dès le moment où nous sommes nés, nous sommes venus dans ce monde en portant déjà le péché dans nos cœurs. Par conséquent, éliminer le péché par des prières de repentance était quelque chose qui ne pouvait pas être établi dès le départ. En nous, il n'y a pas seulement des péchés révélés extérieurement. Nous sommes nés sur cette terre en possédant dans nos cœurs les 12 pensées mauvaises fondamentales telles que le meurtre, l'adultère, l'envie, les querelles, le vol, l'orgueil et la folie, c'est-à-dire la masse entière du péché. Par conséquent, peu importe combien nous supplions pour la rémission de chaque péché individuel, ce péché fondamental ne disparaît pas. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre ce péché fondamental hérité des parents dès le sein maternel et tous les péchés que nous commettons tout au long de notre vie. C'est de croire que Jésus-Christ est venu sur cette terre et a effacé tous ses péchés par le baptême qu'il a reçu et le sang de la croix. Si le Seigneur a ôté l'iniquité fondamentale, communément appelée péché originel, tous nos péchés individuels y sont déjà inclus. Essayez d'éliminer les péchés quotidiens, appelés péchés actuels, par des prières de repentance, revient à tailler des branches qui dépassent de sans traiter la cause racine. De cette manière, le péché ne peut jamais être éliminé. Jésus n'a pas fait de distinction entre le péché originel et les péchés actuels. Il a pris sur lui tout le péché du monde par le baptême. Ce n'est que lorsque nous croyons cela que le péché entré par un seul homme peut être pleinement expié par une seule personne, le Christ. Nous devons reconnaître que le péché est entré par un seul homme et croire que, selon la loi de Dieu, le salaire du péché c'est la mort, tous les êtres humains sont des êtres qui n'ont d'autre choix que de mourir et d'aller en enfer. Le péché de l'homme existait même avant que la loi ne vienne. Lisons ensemble Romains chapitre 5 verset 13. « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Y avait-il du péché même avant que nous ne connaissions la loi de Dieu ? Il y avait des actes pécheurs qui apparaissaient dans le comportement, mais il n'y avait pas de loi pour les définir comme péché. Ici, péché se réfère à l'état fondamental, et transgression, les péchés commis, se réfèrent aux actions mauvaises. Jusqu'à ce que nous connaissions la loi de Dieu, nous ne savions pas ce qui devenait réellement péché devant Dieu. » Avant de connaître les commandements de Dieu qui comptent 613 articles, y compris les 10 commandements tels que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'idole et tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. » Et, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, nous ne réalisions pas quel genre d'être nous étions à la naissance, ni à quel point les choses que nous faisons sont des crimes graves. C'est pourquoi la Bible dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. » Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Parce que nous, les païens, ne connaissions pas la loi à l'origine. Même en commettant le péché, nous ne savions pas que c'était un péché. Même en prenant une pierre, en l'appelant Bouddha, en la considérant comme un dieu, et en se prosternant devant elle, nous ne savions pas que c'était de l'idolâtrie. Nous ne savions pas à quel point c'était un grand péché de se prosterner devant d'autres dieux que Dieu qui a créé ce monde. Cependant, le péché existait déjà dans le monde bien avant que la loi ne soit donnée. Ce n'est qu'environ plus de 2000 ans après que Dieu a créé Adam qu'il a finalement donné la loi par l'intermédiaire de Moïse. Bien avant que la loi ne soit proclamée au peuple d'Israël et à toute l'humanité, le péché était déjà venu sur tous les hommes par un seul homme, Adam. Nous étions déjà dans le péché avant que la loi n'existe. Nous devons connaître et croire le fait que, parce que nous sommes nés comme descendants d'Adam, tous sont nés avec le péché dans leur cœur. Cependant, parce que nous étions des païens, nous ne connaissions ni la parole de Dieu ni la loi. Nous ne savions pas ce qu'était le péché, ni le fait que la racine du péché est de ne pas croire à la parole de Dieu. En servant des idoles chaque jour sans reconnaître Dieu, nous avons vécu, sans même avoir la conscience, que nous étions des pécheurs. Même si nous ne le considérions pas comme un péché, c'était clairement un péché devant Dieu. C'est simplement que nous ne le considérions pas comme un péché parce que nous ne connaissions pas la loi. Maintenant, Dieu nous a enseigné ce qu'est le péché par la loi et nous a conduits à Jésus-Christ pour recevoir la rémission des péchés. En d'autres termes, la loi était un pédagogue qui nous conduisait à Jésus-Christ. Par une seule personne, Jésus, tous les hommes sont délivrés du péché. Lisons ensemble Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est à la figure de celui qui devait venir. Jésus-Christ a-t-il éliminé à lui seul les péchés de ce monde? Oui. En regardant le verset 14 du texte, il est écrit que la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas commis le même type de transgression qu'Adam. C'est pourquoi la Bible a appelé Adam une figure de celui qui devait venir. De même que tous les hommes sont devenus pécheurs à cause d'un seul homme, Adam, c'est parce qu'une seule personne, Jésus-Christ, est venu sur cette terre et nous a sauvés du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fait qu'Adam soit une figure de celui qui devait venir signifie que, selon le même principe par lequel toute l'humanité n'avait d'autre choix que de recevoir le jugement pour le péché et d'aller en enfer à cause d'un seul homme, Jésus-Christ est venu et nous a sauvés de tous ses péchés. C'est précisément la raison pour laquelle Jésus devient notre seul sauveur. Parmi les descendants d'Adam, combien de sauveurs pourraient réellement nous délivrer du péché? Il n'y a qu'un seul sauveur. La Bible témoigne qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et que c'est une seule personne, Jésus-Christ. Celui qui nous a sauvés du péché, c'est le Dieu Trinitaire, et en particulier Jésus qui est venu sur cette terre en obéissance à la volonté du Père. Il nous a sauvés complètement en recevant le baptême et en mourant sur la croix pour éliminer nos péchés. De même que nous devons admettre le fait que tous les hommes se sont automatiquement devenus pécheurs à cause d'un seul homme, Adam, nous devons croire que Jésus est devenu le sauveur des croyants en recevant le baptême et en étant crucifié sur la croix pour éliminer nos péchés. Croyez-vous que Jésus-Christ est le sauveur qui a éliminé en une seule fois les péchés de ce monde par le baptême et le sang de la croix? Jésus a résolu les péchés de ce monde selon le même principe qu'Adam et est devenu le véritable sauveur. Pour délivrer toute l'humanité qui est devenue pécheresse à cause d'un seul homme, Adam, Jésus a personnellement reçu le baptême de Jean et a pris sur son corps tous les péchés du monde. Et en recevant le jugement pour ses péchés à notre place sur la croix et en versant son sang, il a effacé tous nos péchés. Grâce à cette justice de Dieu, Jésus est devenu notre sauveur parfait. Si tous les hommes sont devenus pécheurs et n'avaient eu d'autre choix que d'aller en enfer à cause d'un seul homme, Adam maintenant, par cette seule personne, Jésus-Christ, nous avons reçu le salut et obtenu le droit d'aller au ciel. Par la foi en cette justice que Jésus a accomplie en recevant le baptême, en mourant sur la croix et en ressuscitant, tous les hommes sont devenus capables d'être justes. Le Seigneur vous permet de devenir juste lorsque vous croyez en ce baptême et en ce sang. Alors, puisque la Bible dit maintenant que l'on devient juste par un seul homme, n'est-il pas entièrement faux de prétendre obtenir la rémission des péchés par des prières de repentance ou par la théorie de la sanctification? Oui. Le sauveur du péché est une seule personne, Jésus. Mais si les gens avancent la théorie de la sanctification, qui est leur propre effort, cela est clairement faux. Parce que Jésus nous a sauvés du péché en une seule fois. Nous ne recevons pas la rémission des péchés en vivant bien ou en faisant des prières de repentance, mais nous recevons la rémission des péchés uniquement en croyant en la justice de Dieu. Si le péché demeure lorsqu'une personne ne fait pas une prière de repentance chaque jour, cela ne signifie-t-il pas que nous ne sommes pas encore devenus saints? De plus, cela ne conduit-il pas à la conclusion que Jésus ne nous a pas complètement sauvés du péché? La prière de repentance produit finalement une telle conclusion contradictoire. Croire que le salut éternel n'est achevé que lorsque nos prières de repentance et notre vie sainte sont ajoutées au salut de Jésus est directement contraire à la logique de la Bible. Même si quelqu'un nie de sa bouche la théorie de la sanctification ou la théorie de la justification, s'il croit ainsi dans sa conscience réelle, cette foi est erronée. Maintenant, abandonnez toutes ces pensées humanistes et croyez dans votre cœur à l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus-Christ qui est la parole du véritable salut. La véritable rémission des péchés ne peut pas se produire à moins que ne change l'idée fixe selon laquelle on reçoit la rémission des péchés simplement en croyant au sang de la croix. Jésus a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». La théorie de la sanctification et la théorie de la justification qui se sont installées dans la conscience de nombreuses personnes aujourd'hui ne sont pas la vérité dont parle la Bible. Dans la religion appelée christianisme, on enseigne que l'on reçoit le salut simplement en croyant au sang de la croix, tout en excluant l'eau du baptême, mais cela n'est qu'une partie de la conclusion et non la vérité entière. Car si Jésus n'avait pas reçu le baptême de Jean et pris sur lui les péchés, il n'y aurait absolument aucune raison pour lui de verser son sang et de mourir sur la croix. Par conséquent, nous devons réfléchir, croire et rejeter entièrement selon les paroles de Jésus. Échappez maintenant à la pensée logique humaine selon laquelle on devient juste seulement en atteignant la sanctification par des prières de repentance. La Bible témoigne clairement. Une seule personne, Jésus-Christ, est venue sur cette terre et a reçu le baptême pour porter nos péchés. Et à cause de cela, tous tes péchés et les miens ont été transférés sur lui. Lorsqu'il reçut le baptême en proclamant « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », toute la justice de Dieu fut accomplie en une seule fois. La raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême. Le fait que Jésus ait reçu le baptême suit le même principe que lorsque, à l'époque de l'Ancien Testament, les péchés du peuple étaient transférés sur le sacrifice lorsque le grand prêtre ou un pécheur posait les mains sur l'offrande sacrificielle. Lorsque Jésus reçut le baptême de Jean-Baptiste et sortit de l'eau, c'était un événement proclamant que Jésus avait pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Jésus est l'agneau de Dieu et notre offrande sacrificielle. Jean-Baptiste, représentant toute l'humanité, a accompli le rôle du grand prêtre en transférant les péchés et a posé les péchés de toute l'humanité sur Jésus-Christ, l'offrande sans tache. Ainsi, Jésus est venu sur cette terre et a sauvé nos péchés en une seule fois. Pour cela, il a reçu le baptême une fois pour toutes, est mort sur la croix une fois pour toutes et est ressuscité d'entre les morts, devenant le véritable sauveur qui nous a sauvés. Cependant, parce que les gens d'aujourd'hui croient sans connaître la vérité, ils portent encore le péché dans leur cœur, même après avoir cru en Jésus. Pour tenter de résoudre ce péché par eux-mêmes, ils ont créé des doctrines telles que la théorie de la sanctification, la prière de repentance et la justification par la foi. En réalité, ils croient en Jésus en combinant des théories qu'ils ont eux-mêmes élaborées. En conséquence, le christianisme a perdu sa vitalité et s'est dégradé en une simple religion. Ils ont retiré le baptême de Jésus du chemin du salut et ont inséré à la place la théorie de la sanctification ou la justification par la foi. Nous devons simplement connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Dieu nous a sauvés tel qu'il est. Mais parce que les gens ne le connaissent pas, ils continuent d'ajouter des doctrines humaines. Dieu a averti qu'il ajouterait des malédictions à ceux qui ajoutent quelque chose à la parole du salut. Nous devons simplement croire, telle quelle, la manière dont Jésus nous a sauvés du péché. Pourquoi y ajouter autre chose? Si nous croyons au baptême et au sang de Jésus, devenons-nous justes ou non? Naturellement, nous devenons justes. Es-tu devenu juste en croyant au baptême et au sang? Oui, je suis devenu juste. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il a porté nos péchés. Quand, comment et quoi a-t-il porté? À l'âge de 30 ans, Jésus a reçu le baptême de Jean et est mort sur la croix, éliminant ainsi tous les péchés du monde et accomplissant toute justice. Jésus a reçu le baptême pour porter tous nos péchés, et en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a été crucifié et est mort sur la croix. Et en ressuscitant, il est devenu le sauveur éternel pour ceux qui croient de ce fait. C'est cela que nous croyons. Un croyant a-t-il du péché? Non. Par conséquent, un seul homme, Adam, est une figure de celui qui devait venir. De même que tous les hommes sont devenus pécheurs à cause d'Adam, Jésus est également venu sur cette terre et nous a sauvés du péché par l'eau et le sang. Par la foi en cette justice du salut, tous les hommes sont devenus justes. Vous tous, croyez-vous ce fait? Parce que Jésus a déjà porté nos péchés. Dans la justice de Dieu, il n'existe aucune logique selon laquelle on reçoit la rémission des péchés par des prières pour la sanctification ou par des prières de repentance. Alors, ceux qui ont reçu la rémission des péchés ne prient-ils pas? Ils ne font pas des prières de repentance, mais ils font des prières de confession. Cela signifie reconnaître lorsqu'ils ont commis des fautes dans leur vie. Première épître de Jean chapitre 1 verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ici, la parole disant qu'il nous purifie si nous confessons nos péchés s'adresse à ceux qui sont déjà devenus des personnes justes sans aucun péché dans leur cœur en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que lorsqu'une personne qui a parfaitement obtenu la justice de Dieu, comme l'apôtre Jean, commet un péché à cause de la faiblesse de la chair, si elle confesse ce péché, le Seigneur enlève ce péché. La raison pour laquelle la Bible a écrit « Il est fidèle et juste » et que Jésus-Christ a déjà porté tous les péchés que nous commettrons tout au long de notre vie par le baptême et a reçu le châtiment à notre place sur la croix. Au moment où nous confessons les péchés que nous avons commis, le Seigneur nous confirme de nouveau qu'il a déjà résolu même ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au moment où nous confirmons cet évangile, le Seigneur donne la paix à nos cœurs. Nous obtenons le repos dans nos cœurs en croyant à la parole selon laquelle tous les péchés ont déjà disparu. L'apôtre Jean, qui a écrit 1er épître de Jean, était une personne qui croyait clairement à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans 1er épître de Jean chapitre 5, il a témoigné que Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang, non seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang, et que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord commun. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Quel est ce témoignage? C'est le fait que tous nos péchés ont disparu par l'eau, le sang et l'esprit. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, et Adam est une figure de celui qui devait venir. Jésus est venu dans ce monde selon le même principe qu'Adam et a complètement éliminé les péchés de toi et de moi à travers ses 33 années de vie. Il nous a transformés, nous qui étions pécheurs, en des personnes parfaitement justes. C'est cela la vérité. Le péché ne disparaît pas parce que quelqu'un fait des prières de repentance et l'on n'obtient pas non plus le droit d'aller au ciel simplement parce que le corps et le cœur deviennent saints après avoir vécu longtemps une vie religieuse. On ne peut pas être libéré du péché simplement en pratiquant l'ascétisme face à un mur dans le bouddhisme ou en apprenant des techniques de respiration comme les philosophes orientaux. Bien que la maîtrise physique puisse être entraînée dans une certaine mesure, cela ne peut pas rendre le cœur parfaitement juste. Les êtres humains n'ont d'autre choix que de commettre le péché à cause de la faiblesse de la chair et ils ne peuvent de pas échapper à ce joug par la discipline ou le yoga. Le seul qui nous libère des péchés que nous commettons chaque jour est Jésus-Christ. Il a accompli la justice de Dieu par les mérites du baptême qu'il a reçu en venant sur cette terre, par le sang de la croix et par sa mort et sa résurrection. Nous avons obtenu le salut en croyant en ses mérites. Ceci est un changement de notre âme et non un changement de la chair. Cela se situe sur une dimension totalement différente de la discipline ou de l'ascétisme. Jésus nous a sauvés à 100%. Puisque le véritable salut est celui où nos mérites n'entrent absolument pas, la prière de repentance ne peut pas non plus être une condition du salut. Qu'est-ce que la véritable repentance? Le mot « repentance » signifie faire un demi-tour d'un mauvais chemin vers le bon chemin. C'est reconnaître que le chemin que l'on suivait était mauvais et faire demi-tour en disant « Ah, je n'aurais pas dû croire de cette manière. Jésus a déjà éliminé tous mes péchés par son baptême et son sang. Je dois simplement croire ce fait. » La véritable repentance consiste à se détourner de la position consistant à croire uniquement au sang de la croix, tout en ignorant l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour croire à la vérité correcte. Pourquoi donc la prière de repentance, qui ne peut pas éliminer le péché et qui est contraire à la parole, est-elle si importante? Dans d'autres religions, les gens demandent le pardon et essaient de vivre droitement par leur propre force, mais la prière de repentance dont parle le christianisme ne devrait pas être ainsi. La repentance correcte consiste à se détourner de ce que nous avons cru et pensé de manière erronée et à revenir à l'évangile par lequel Dieu nous a sauvés du péché. La véritable repentance consiste à tourner son cœur pour croire la vérité que Dieu nous a dite et à accepter de tout son cœur le salut que Dieu a accompli. C'est cela la vérité. Demander simplement le pardon parce que l'on a fait quelque chose de mal n'est rien d'autre qu'un acte religieux. La religion consiste pour les êtres humains à prier un Dieu qu'ils ont eux-mêmes créé pour leur propre bénéfice. Cependant, la véritable foi consiste à regarder le salut que Dieu a planifié et accompli par l'eau et l'esprit, et à l'accepter en disant « Ah Seigneur, tu as accompli cette œuvre pour moi. Merci. » C'est l'essence de la foi. D'un autre côté, la religion consiste à être soumise à un Dieu ou à une doctrine créée par les hommes et à servir comme un esclave pour atteindre ses propres objectifs. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas croire au christianisme de manière religieuse. Si l'on croit de cette manière, on n'aura finalement d'autre choix que d'aller en enfer. Certaines doctrines du christianisme sont gravement erronées lorsqu'on les examine à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons savoir où la foi d'innombrables personnes à travers le monde s'est égarée. La base de leur foi erronée réside dans la pensée selon laquelle il faut atteindre la sanctification ou il faut recevoir la rémission des péchés par des prières de repentance. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Ici, confession signifie révéler sa nature telle qu'elle est. Par exemple, lorsqu'un espion est capturé, confesser signifie reconnaître ses méfaits. Admettre qui je suis, combien de temps j'ai été formé et sous les ordres de qui j'ai commis cet acte est une confession. À l'inverse, dire « j'ai accompli une grande chose » et affirmer sa propre justification n'est pas une confession. La véritable confession devant Dieu consiste à se repentir de ses fautes et à rendre grâce pour la grâce qui a rendu une telle personne fidèle et juste. Affirmer ses actions en disant « puisque j'ai fait cela de mal, je ne le referai plus » ou « je prierai davantage des prières de repentance et donnerai plus d'offrandes » n'est pas une confession. La repentance consiste à admettre que l'on a commis le péché à cause de la faiblesse de la chair et à tourner son cœur vers Dieu. Demander simplement et avec insistance le pardon du péché n'est ni une confession ni une repentance. Les gens pensent généralement que lister les péchés un par un et promettre de ne plus pécher est une prière de repentance et une sanctification. Cependant, admettre « je suis un être qui n'a d'autre choix que de commettre le péché » est une confession. Promettre la sanctification en disant « j'aurais pu l'éviter mais j'ai péché par erreur. Si tu me pardonnes, je prendrai cela comme une leçon et ne pécherai plus jamais » est une foi très éloignée de la parole de Dieu. La Bible dit que si vous croyez en Jésus, vous devenez immédiatement juste. Au moment où vous croyez en la justice de Dieu accomplie par Jésus, tous vos péchés sont enlevés en une seule fois et vous devenez une personne sans péché. Après cela, si vous commettez un péché à cause de votre insuffisance en vivant pour la justice, c'est croire qu'il a déjà enlevé même ce péché et rendre grâce pour cette grâce. C'est confesser « Seigneur, bien que je sois insuffisant, merci de m'avoir sauvé en éliminant mes péchés ». La véritable foi consiste à reconnaître son insuffisance devant Dieu et à vivre en rendant grâce pour la grâce qui nous a rendus justes. Au contraire, les justes qui ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit en viennent à remercier Dieu encore davantage à cause de l'insuffisance qu'ils ressentent dans leur vie. Ils en viennent à confesser les péchés qu'ils commettent chaque jour en disant « Merci d'avoir sauvé une personne insuffisante comme moi de tous les péchés ». À ce moment-là, le Seigneur dit à nos cœurs « n'ai-je pas déjà reçu le baptême pour toi? Ne suis-je pas mort pour toi? Je suis ton sauveur même. » Alors nous en venons à confesser « Seigneur, c'est vraiment ainsi. En voyant mon état tomber dans le péché, je suis vraiment reconnaissant pour la grâce du Seigneur. » Ainsi, nous en venons à aimer encore davantage le Sauveur Jésus. Ce n'est pas que l'on atteigne la sanctification en lavant les péchés par des prières de repentance, mais l'on en vient à aimer encore davantage le Seigneur parce que l'on découvre que le Seigneur a déjà éliminé même ses péchés. Le salut du péché n'est pas comme notre transgression. Regardons Romains, chapitre 5, verset 15. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Le don du salut et de la rémission des péchés que Dieu nous donne est-il de même nature que les transgressions que nous commettons? La Bible dit « Mais le don gratuit n'est pas comme l'offense ». Ici, le don gratuit est la bonne nouvelle bénie que Dieu nous a sauvés du péché. Cela signifie que Jésus est venu sur cette terre, a sauvé tous les pécheurs par l'eau et le sang, et a fait de nous qui croyons des personnes sans péché. Le Seigneur t'a sauvé, et m'a sauvé en une seule fois. En venant sur cette terre, en recevant le baptême et en mourant sur la croix, il a sauvé en une seule fois ceux qui croient. Au moment où nous croyons se fait dans notre cœur, la rémission parfaite des péchés est accomplie. Par une seule fois, nous atteignons la justice et obtenons le salut complet. Au moment même où nous croyons que Jésus a reçu le baptême, a versé son sang et est mort sur la croix, puis est ressuscité pour devenir notre sauveur, nous devenons complètement justes. Vous tous, les péchés de toi et de moi ont-ils été transférés à Jésus lorsqu'il a reçu le baptême ou non? Oui, ils ont été transférés. Et Jésus a-t-il porté les péchés du monde et reçu le jugement pour le péché à notre place sur la croix? Oui, il l'a reçu. Et aussi, est-il ressuscité d'entre les morts? Oui, il est ressuscité. Ainsi, lorsque nous venons à savoir que nos péchés ont été transférés lors du baptême de Jésus et qu'il a porté le jugement en portant nos péchés et en mourant sur la croix, nous réalisons qu'il nous a aimés et est devenu le véritable sauveur. À ce moment-là, nous croyons ce fait de tout notre cœur et atteignons la justice de Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons nous tenir avec assurance comme des personnes justes devant Dieu est que Jésus a porté et éliminé tous nos péchés par le baptême et le sang de la croix. Cependant, il est dit que ce don gratuit, qui est le don du salut donné par Dieu, n'est pas comme l'offense. Jésus a parfaitement sauvé les croyants par le baptême et le sang de la croix durant sa vie sur terre, mais même après avoir été sauvés, nous sommes encore insuffisants et pouvons continuer à commettre des transgressions. Bien que nous commettions encore des péchés, la grâce par laquelle Dieu nous a sauvés en une seule fois est bien plus grande que nos transgressions. La Bible parle maintenant du poids de ce salut. Le poids de ce don est incomparablement plus grand que les transgressions que nous commettons. Le don de la rémission des péchés donné par Dieu n'est pas accordé petit à petit chaque jour au fur et à mesure que les hommes commettent des péchés. Ce n'est pas que nous recevions le pardon chaque jour en suppliant « Dieu, pardonne-moi » chaque fois que nous commettons une transgression, mais il nous a déjà sauvés du péché en une seule fois il y a environ 2000 ans. Nous sommes déjà dans l'état d'avoir reçu la rémission des péchés. Le don du salut de Dieu et la justice de Dieu accomplie en une seule fois. Ce n'est pas une méthode consistant à recevoir la rémission des péchés et à demander pardon chaque jour, comme la prière de repentance pratiquée par beaucoup de gens aujourd'hui. Le Seigneur savait déjà que nous commettrions des péchés chaque jour et il a porté tous les péchés de ce monde en une seule fois lorsqu'il a reçu le baptême. Ainsi, comme le dit la parole, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, toute la justice a été accomplie. Par conséquent, nous ne devons pas croire en Dieu selon les pensées humaines. L'idée selon laquelle on reçoit la rémission des péchés en commettant un péché, puis en faisant une prière de repentance, n'est qu'une idée fixe communément partagée par les chrétiens. C'est un grand malentendu de croire que si quelqu'un commet un péché dans la société, puis va simplement à l'église et fait une prière de repentance, ce péché est remis. Si l'on croit que le péché disparaît uniquement par une prière de repentance, cela dévalorise le sang que Jésus a versé sur la croix, et ce n'est rien d'autre qu'une doctrine que l'on a fabriquée soi-même. La base pour que le péché soit enlevé n'est pas notre prière de repentance, mais le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean et a porté tous nos péchés. Parce qu'il a pris sur lui toutes les transgressions de toute notre vie et les péchés de nos cœurs en une seule fois par le baptême, nous sommes sans péché. De plus, parce qu'il a porté tous ses péchés et a versé son sang sur la croix, il n'y a plus maintenant de jugement pour le péché pour nous. Nous sommes parvenus à un état parfait où il n'est plus nécessaire d'offrir de sacrifice pour le péché. Ce type de foi est la foi correcte. Penser que l'on reçoit la rémission des péchés par des prières de repentance est un acte qui ne croit pas au salut parfait que Dieu a donné. La Bible dit « Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ?» Romains chapitre 5, verset 15. Le Seigneur a reçu le baptême à l'âge de 30 ans pour porter les péchés de l'humanité et a effacé nos péchés sur la croix. Ce salut est un salut éternel qui a effacé tous les péchés que nous commettons jusqu'au moment de notre mort par l'eau et le sang. Ce don du salut donné par Dieu abonde, tout comme l'eau déborde lorsqu'un robinet est laissé ouvert toute la nuit, cela signifie que, quelle que soit la transgression que nous avons commise, la grâce du salut est suffisamment abondante pour couvrir pleinement tous ses péchés et encore demeurer en surplus. Parce qu'il a déjà éliminé même tous les péchés que nous commettons après avoir cru en Jésus, nous sommes parfaitement sauvés par la foi. Parce que ce salut dans lequel Jésus a porté tous les péchés du monde par le baptême et a reçu le jugement à notre place par le sang de la croix, est bien plus grand que nos transgressions. Un salut parfait sans aucun manque est accordé à ceux qui croient. En conclusion, vu dans la perspective de Romains chapitre 5, verset 15, il est révélé que les concepts théologiques de la justification par la foi et de la sanctification, ainsi que la pratique religieuse de la prière de repentance, sont tous faux. Si vous comparez les paroles à partir de Romains chapitre 5, verset 12, verset par verset, vous réaliserez que toutes ces doctrines ne sont rien d'autre que des pensées humaines sans valeur qui disparaissent comme une poignée de cendres devant la parole de Dieu. Les gens disent que l'on peut obtenir le salut simplement en croyant au sang de la croix. Mais cela ne peut pas être la norme du salut parfait. Seule la norme de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu correspond exactement à la parole de la justice de Dieu. Par conséquent, la théorie théologique de la justification et la théorie de la sanctification sont toutes erronées. Si une personne essaie d'obtenir le salut en croyant à la théorie de la sanctification, elle devrait changer constamment tout au long de sa vie, mais comme la nature humaine est la semence du péché, elle n'a d'autre choix que de rester pécheur à la fin. La fin d'un pécheur est l'enfer, et une telle foi est un acte qui nie la justice de Dieu et lui tourne le dos, elle ne peut donc jamais conduire au salut. L'humanité est, dans son cœur même, la semence du péché. Si Dieu avait exigé que nous devenions justes par nos propres efforts, pas une seule personne dans ce monde n'aurait pu être sauvée du péché. Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer, nous qui sommes si insuffisants et des masses de péchés, du péché du monde. Tout son ministère d'accomplir l'évangile de l'eau et de l'esprit était uniquement dans le but de nous sauver. Par conséquent, la théorie de la justification, qui dit « bien que quelqu'un ait du péché, il est appelé juste parce qu'il croit », n'est qu'une doctrine fabriquée par les hommes et constitue plutôt un enseignement erroné qui empêche les gens de recevoir le salut. Jésus-Christ a reçu le baptême pour porter les péchés de tous les pécheurs et il a versé son sang et est mort sur la croix. Seule la personne qui accepte cette justice de Dieu par la foi obtient le grand don, appelé salut. De même que beaucoup sont morts à cause du péché d'un seul homme, Adam, tous les hommes reçoivent le salut de la rémission des péchés en croyant au mérite du baptême que Jésus-Christ a reçu et à son sang sur la croix. C'est un fait que les péchés de la personne qui croit à l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus sont réellement purifiés complètement. Cela seul est l'unique vérité du salut établi par Dieu. Romains chapitre 5, versets 16 et 17 disent ce qui suit. « Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent de l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. À cause de l'offense d'un seul homme, Adam la mort est venue régner sur toute l'humanité. Quiconque avait du péché devait mourir et devait aller en enfer. Cependant, maintenant, par l'unique, Jésus-Christ, nous en sommes venus à régner dans la vie. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit, reçoivent la grâce de la vie. Ceux qui croient en la justice de Dieu, qui a envoyé son Fils unique pour recevoir le baptême et mourir sur la croix afin d'éliminer tous nos péchés, en viennent maintenant à régner pour toujours dans la justice comme enfants de Dieu et non comme esclaves du péché. Le verset 18 dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Nous devons poser ici une question importante. Est-il vrai que je suis devenu pécheur à cause du péché d'un seul homme? Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas devenu pécheur en accomplissant un acte, mais vous êtes devenu pécheur dès la naissance, parce que vous avez hérité de l'offense de votre ancêtre Adam. Alors, nous devons aussi répondre à la question « Celui qui croit en l'unique acte de justice de Jésus-Christ devient-il réellement juste ? » Oui, il le devient. Si vous croyez en la justice de Dieu, le péché disparaît de votre cœur et vous devenez juste. Tout le processus par lequel Jésus-Christ est venu sur cette terre, a reçu le baptême, est mort sur la croix et est ressuscité pour nous sauver est précisément l'unique acte de justice de Dieu. Dieu le Père a permis à son Fils de recevoir le baptême et de verser son sang afin de sauver tous les pécheurs. C'est la vérité absolument nécessaire pour que nous recevions la rémission des péchés. L'expression « entraînant la justification qui donne la vie » ne signifie jamais que l'on devient juste seulement pour un moment en croyant, puis que l'on doit ensuite être sanctifié par des prières de repentance. De plus, ce n'est pas la théorie de la justification qui considère quelqu'un comme juste alors que le péché demeure encore. Ceux qui croient seulement au sang de la croix essaient de se cacher derrière la doctrine appelée « théorie de la justification » parce qu'ils sentent encore le péché demeurer dans leur cœur, mais cela n'est qu'une doctrine maudite qui insulte le salut de Dieu. Le verset 19 dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Ici, l'homme qui n'a pas obéi est Adam, et celui qui a obéi est Jésus-Christ. Parce que toute l'humanité est devenue pécheresse à cause de la désobéissance d'Adam, Jésus a obéi à la volonté du Père, a porté les péchés du monde en recevant le baptême et a reçu ce châtiment à notre place sur la croix. Cette justice de Jésus est ce qui nous a rendus parfaitement justes. Au verset 20, il est dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Les êtres humains sont des êtres nés avec le péché et qui commettent le péché. » Mais jusqu'à ce que la loi vienne, ils ne savaient même pas que c'était un péché. Ce n'est que lorsque la loi est venue qu'ils ont réalisé que leurs actions étaient de grands péchés devant Dieu. La loi révèle même la nature pécheresse que nous ne réalisions pas et nous confirme comme des pécheurs complets. La parole, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, signifie que lorsqu'une personne, réalisant par la loi qu'elle est un pécheur misérable, qui n'a d'autre choix que d'aller en enfer, rencontre la justice de Dieu, elle en vient à ressentir cette grâce encore plus profondément. Plus une personne réalise profondément son propre péché, plus elle en vient à avoir une grande reconnaissance et une foi envers le fait que le baptême et la croix de Jésus l'ont sauvé. À celui qui a réalisé le péché par la loi, l'évangile de Dieu s'approche comme une grâce de salut indescriptiblement grande. Enfin, le verset 20 et 1 dit « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » L'époque où le péché régnait dans la mort est terminée. Maintenant, la grâce du salut que Jésus a accompli par l'eau et le sang règne dans nos vies par la justice de Dieu. Nous avons reçu la rémission de tous les péchés et obtenu la vie éternelle en croyant au baptême et au sang de Jésus-Christ. Le premier homme de l'humanité, Adam, a commis le péché et l'a transmis à ses descendants, mais Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour nous sauver. Jésus a obéi à la parole de Dieu, a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean, est mort sur la croix et est ressuscité, devenant le sauveur de l'humanité. Celui qui croit ce fait obtient le salut. Cependant, celui qui ne croit pas cela et essaie de devenir juste par ses propres prières de repentance ou par la sanctification n'a d'autre choix que d'aller en enfer à la fin. C'est pourquoi il y a un dicton selon lequel, au ciel, il y a beaucoup de personnes qui étaient insuffisantes dans le monde mais qui sont venues par la grâce. Et en enfer, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de vivre bien par elles-mêmes mais qui sont venues en s'appuyant sur leur propre justice. La théorie de la sanctification ou la théorie de la justification ne sont que des jeux de mots insensés inventés de force par des hommes qui ne connaissent pas correctement la parole de Dieu. La vérité de Dieu est claire et distincte. Lorsque nous croyons que Jésus, qui est Dieu, est venu dans la chair et nous a sauvés de tous les péchés, nous sommes complètement libérés du péché du monde. Croyez en la justice de Dieu, alors vous serez certainement délivrés du péché. La théorie de la sanctification, qui tente d'ajouter au salut par ses propres efforts et actions, est une pensée complètement opposée à la vérité. Le Seigneur a dit que nous sommes des êtres qui ne peuvent même pas observer 0,1% de la loi. Celui qui essaie de s'appuyer, ne serait-ce qu'un peu sur sa propre capacité, est quelqu'un qui s'oppose à la justice de Dieu. N'essayez pas de juger la justice de Dieu avec une logique humaine. La justice de Dieu nous a déjà sauvés parfaitement. Et il attend que nous croyions ce fait et devenions enfants de Dieu. J'espère que vous croirez de tout votre cœur au baptême de Jésus et au sang de la croix, et que vous jouirez de la grâce débordante de Dieu. Dieu est tout-puissant et miséricordieux, et il nous a sauvés parfaitement par sa grâce. Je rends de sincères actions de grâce devant Dieu, qui vous a délivrés de tous les péchés.